VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 22 avril 2019. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Réaction d'horreur et condamnation à travers le monde après les attentats meurtriers d'hier contre des églises et des hôtels au Sri Lanka à l'occasion de Pâques.
Au Mali, 11 soldats ont été tués par des djihadistes présumés dans une attaque contre un poste de l'armée près de la frontière mauritanienne.
Au Nigeria, 2 personnes, dont un travailleur humanitaire britannique, ont été tuées dans une attaque perpétrée par des hommes armés dans l'état de Kaduna.
En République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa a estimé dans son message de Pâques que les désespoirs gagnent de plus en plus les cœurs de ses compatriotes.
En Ukraine, le président sortant, Petro Porochenko, a été battu hier par le comédien Volodymyr Zelensky.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Actualité oblige, le Sri Lanka a connu hier, dimanche de Pâques sanglant. Des attentats coordonnés contre des hôtels et des églises bondées ont fait au moins 290 morts et 500 blessés. Des bombes ont visé des hôtels de luxe et des églises célébrant la messe de Pâques en plusieurs endroits de l'île d'Asie du Sud. Le point avec Idriss Fall.
4 hôtels de luxe et 3 églises remplies ont été visés par 8 explosions, dont 6 ont été presque simultanées et au moins 2, selon des témoins, ont été commises par des kamikazes. Ces attaques n'ont pas encore été revendiquées. 8 personnes ont été interpellées. L'archevêque de Colombo a appelé à punir sans pitié les responsables. Le pape François a exprimé sa tristesse en apprenant ces graves attentats le jour de Pâques. Le président Donald Trump a condamné ces attaques terroristes horribles et a offert son aide. La première ministre britannique Theresa May, dont le pays avait colonisé le Sri Lanka, a dénoncé des actes de violence réellement effroyables. Toute notre solidarité avec le peuple sri-lankais, affirme le président français Emmanuel Macron. Le président russe Vladimir Poutine dit s'attendre à ce que les responsables d'un crime aussi cynique et haineux soient punis comme ils le méritent.
Et condamnation également dans le monde musulman. Jean-Roger Bion.
L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et Bahreïn apportent leur soutien au Sri Lanka et soulignent leur rejet du terrorisme, de même que la Jordanie, le Qatar et l'Iran. Pour Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, le terrorisme se répand comme une épidémie et tous les pays doivent coopérer pour l'éradiquer. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi condamne ces actes qui ciblent l'humanité tout entière. L'instinct de ces terroristes contredit les préceptes de toutes les religions d'après Al-Azhar, la grande institution de l'islam sunnite basée au Caire. Le roi du Maroc, Mohamed VI, exprime sa ferme condamnation d'un acte terroriste abject rejeté par toutes les religions. Pour le porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères, Abdelaziz Ben Ali Sherif, cette violence terroriste qu'aucune cause ne peut justifier transgresse toutes les valeurs humaines et religieuses. Enfin, le premier ministre pakistanais Imran Khan condamne l'horrible attaque au Sri Lanka et assure de la totale solidarité de son pays.
Au Mali, 11 soldats ont été tués dans une attaque à Guiré, près de la frontière mauritanienne. Les précisions de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Guiré est une commune située à 300 km de Bamako, dans le cercle de Nara, région de Koulikoro. Elle a été attaquée hier dimanche à 5h du matin par une colonne de véhicules d'assaillants, des terroristes lourdement armés qui ont attaqué un détachement de l'armée malienne. Bilan 11 soldats tués, plusieurs véhicules emportés, ainsi que des armes et munitions. Le camp a été totalement détruit et incendié. Après leur forfait, les terroristes, avant de se retirer de la ville, ont pu ramasser leurs victimes au nombre de 17 avant l'arrivée des renforts des militaires maliens. Ce sont les populations de Guiré qui se sont occupées des soldats victimes et blessés. Les renforts, une fois sur place, ont ratisé la localité. Il faut signaler que la commune de Guiré est située non loin de la forêt de Ouagadou, lieu de passage des groupes terroristes entre le Mali et la Mauritanie, mais aussi une zone de refuge pour eux. La présence du camp des Fama réduisait leur mobilité dans la zone. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, deux personnes, dont un Britannique travaillant dans l'humanitaire, ont été tuées et quatre touristes enlevés par des hommes armés dans un hôtel du nord du Nigeria, a annoncé hier la police. Les assaillants ont attaqué vendredi soir le Kajuru Castle Resort, situé dans une zone montagneuse à 60 km au sud-est de la ville de Kaduna, a indiqué à la presse le porte-parole de l'État de Kaduna. Dans cet État et dans l'ensemble du nord-ouest du Nigeria, les enlèvements contre rançon sont devenus une menace croissante, de même que la route vers la capitale Abuja, où les attaques armées se sont multipliées.
En République démocratique du Congo, l'archevêque de Kinshasa, l'une des voix de la très influente Église catholique du pays, a estimé que les récents événements sociopolitiques n'ont pas beaucoup réalisé les rêves du peuple congolais. Dans son message de Pâques, trois mois après la première alternance à la tête de l'État, Mgr Fridolin Ambongo Besungu a déclaré « Dans notre pays, nous célébrons cette fête dans un contexte où les désespoirs gagnent de plus en plus les cœurs des Congolaises et des Congolais. » L'archevêque de Kinshasa, rappelle-t-on, conteste, tout comme le candidat Martin Fayulu, le résultat officiel de l'élection du 30 décembre dernier et la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi.
Au Soudan, les responsables de la contestation ont annoncé dimanche la suspension des discussions avec les militaires et appelé à intensifier les manifestations réclamant un pouvoir civil. Nous considérons le Conseil militaire de transition comme un prolongement du régime de l'ex-président Omar el-Béchir, destitué le 11 avril dernier, a déclaré un porte-parole des organisations représentant la contestation, Mohamed El-Amin, qui s'adressait à des milliers de personnes rassemblées devant le QG de l'armée à Khartoum. Pour sa part, le chef du Conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé qu'une délégation soudanaise va se rendre à Washington pour discuter d'un retrait du Soudan de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme.
Au Maroc, des milliers de personnes ont manifesté hier à Rabat pour réclamer la libération des détenus du mouvement Hirak qui avait dirigé la contestation dans la région du Rif. De nouveau, Jean-Roger Bion.
Le peuple veut la libération des détenus, ont scandé les manifestants, baptisé la marche du peuple marocain, stop à l'injustice politique. Cette manifestation a été organisée à l'appel des familles de détenus et plusieurs organisations politiques et de défense des droits de l'homme. La cour d'appel de Casablanca a confirmé début avril les peines de 42 membres du mouvement Hirak. Son leader Nasser Zefzafi, 39 ans, et trois autres militants ont écopé de 20 ans de prison ferme pour complot visant à porter atteinte à la sécurité de l'État. Plusieurs associations et ONG ont critiqué la sévérité des peines. Ces militants ont été transférés le 11 avril de Casablanca vers des prisons du Nord pour être plus proches de leur famille, selon l'administration pénitentiaire. Le mouvement Hirak a été déclenché par la mort en octobre 2016 d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures en tentant de s'opposer à la saisie de sa marchandise.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Ukraine, le comédien novice en politique Volodymyr Zelensky a remporté hier la présidentielle avec une majorité écrasante face au président sortant Petro Porochenko. L'acteur et humoriste ukrainien, qui est âgé de 41 ans, a obtenu, selon les sondages réalisés à la sortie des bureaux de vote, environ 73% des voix au second tour contre 25% pour son adversaire. Un scénario encore inimaginable il y a quelques semaines. Cette victoire s'inscrit, selon les observateurs, dans la vague mondiale anti-élite, Zelensky ayant promis de casser le système, caractérisé selon lui par le copinage et la corruption. Le président Porochenko est considéré comme un vétéran de la classe politique ukrainienne.
En Arabie Saoudite, quatre hommes ont été tués hier en menant une attaque contre un QG des services de sécurité au nord de la capitale Riyad. Cette attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste État islamique. Un groupe de terroristes a lancé une attaque désespérée qui a été repoussée, a indiqué l'agence de presse officielle saoudienne, citant en porte-parole des services de sûreté de l'État. Trois policiers ont été légèrement blessés et une enquête a été lancée pour identifier les assaillants, a ajouté cette source.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guiriec.
Le Fonds monétaire international annonce le déblocage d'urgence de 118 millions de dollars afin de soutenir le Mozambique qui a été dévasté par le passage du cyclone Idai le 14 mars. Cette aide doit contribuer à assister les autorités à reconstruire le pays, a souligné le FMI dans un communiqué précisant que la priorité était donnée au soutien des plus pauvres et à la reconstruction des infrastructures détruites. La baisse des taux d'intérêt servis par les banques et une hausse des coûts de risque en 2018 pourraient peser sur le résultat net des banques camerounaises en 2018. En effet, la compétition s'est accentuée entre les banques sur un marché qui reste modeste malgré une amélioration du taux de bancarisation. Un document récent du Conseil national du crédit montre que les taux effectifs globaux demandés aux clients sur les prêts accordés par les banques ont baissé sur tous les segments de la clientèle, particuliers, PME, grandes entreprises et États, à la fin du premier semestre de 2018. Dans le même temps, la BEAC a publié son rapport complémentaire de politique monétaire. Il y apparaît clairement que le coût du risque a augmenté dans la zone CEMAC, tiré par une hausse des créances douteuses à hauteur de 21%. Rappelons enfin que l'or a baissé la semaine dernière et est tombé au plus bas depuis décembre, pénalisé par l'appétit des investisseurs pour le risque, tandis que l'argent s'est maintenu et que le palladium a progressé.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec la CAN des moins de 17 ans et on connaît l'affiche des demi-finales.
Oui, et ce sera donc Cameroun, Angola et Nigeria, Guinée. Après les qualifications du Cameroun, du Nigeria et de l'Angola, la Guinée s'est emparée du dernier billet hier. Les quatre équipes du dernier carré se qualifient par la même occasion pour la Coupe du Monde de la catégorie qui aura lieu au Brésil en octobre prochain.
On fait à présent le tour de quelques championnats africains et deux chocs était au rendez-vous hier.
En RDC, dans un classico une nouvelle fois perturbé par des débordements des jets de projectiles qui ont entraîné l'interruption momentanée du match durant quelques minutes, le TP Mazembe a tenu tête à Vita Club 0-0. Ce résultat permet au Corbeau de faire un grand pas vers le titre de champion. En effet, V-Club reste leader, mais il ne lui reste qu'un match à disputer, tandis que le club de Lumbashi, deuxième à 3 points du leader, compte encore 5 matchs à disputer. Au Maroc, le 126e derby casablancais entre le leader du championnat, le Wydad et son éternel rival, le Raja, s'est soldé sur un nul de 2-2 dans un match ouvert et équilibré. Le WAC garde toujours 9 points d'avance sur le Raja, qui a un match de retard à jouer.
Au Bénin, Buffle, solide leader après 24 journées.
Le club de Parakou, vainqueur 3-0 d'Aïma, consolide sa place de leader avec 45 points, soit 7 points de plus que son dauphin Béké FC de Mémereké, tenu en échec 1-1 à Avrancourt. Tonnerre de Boycon reprend la troisième place à Aspac qui était au repos après son nul 0-0 à Kraké.
Athlétisme avec le championnat d'Afrique des moins de 18 et 20 ans qui a eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Oui, une compétition qui a confirmé l'éclosion de certains talents. La Kenyane Zena Yogo a remporté l'or sur 3000 mètres chez les U18 féminins. Le 400 mètres féminin a souri à la Nigériane Favu Ofili. La Kenyane Linda Kaglia et la Ghanéenne Grace Obu sont respectivement en argent et en bronze. Sur le 400 mètres U20 masculin, c'est le Gambien Lamine Ba Moudou qui décroche l'or devant le Zambien Mudenda Luando. Au classement général, l'Afrique du Sud et le Nigeria s'en sortent avec le plus grand nombre de médailles.
Athlétisme toujours, Asbel Kiprop suspendu 4 ans pour dopage.
Le Kenya, champion olympique du 1500 mètres en 2008 et triple champion du monde, a été suspendu 4 ans pour dopage, a annoncé l'unité d'intégrité de l'athlétisme, organe indépendant chargé des questions d'intégrité et de dopage dans la discipline. Le coureur kenyan de 29 ans était déjà sous le coup d'une suspension provisoire depuis février 2018 en raison du contrôle positif à l'OPO établi le 27 novembre 2017. Et puis, du basketball pour terminer, la NBA, les playoffs et avec vous les résultats de la nuit dernière.
Conférence Est, Boston bat Indiana 110 à 106. Boston qualifié pour le prochain tour, vainqueur 4 victoires à 0. Toronto bat Orlando 107 à 85. Toronto mène 3 victoires à 1. Conférence Ouest, Portland bat Oklahoma City 111 à 98. Portland mène 3 victoires à 1. Golden State bat LA Clippers 113 à 105. Golden State mène 3 victoires à 1.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Seloudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Comment lutter efficacement contre les crimes et l'insurrection en Afrique de l'Ouest? Les pays de la sous-région veulent se doter d'un système d'information appelé WAPIS. Et mardi dernier, le gouvernement nigérian et Interpol ont signé à Abuja un accord pour sa mise en place. Les détails avec notre correspondant dans la capitale nigériane, Gilbert Tamba.
L'objectif est d'harmoniser et organiser la gestion au niveau national et régional des informations policières dans l'ensemble de la région de l'Afrique de l'Ouest. L'inspecteur général des services de police du Nigeria explique comment ce système de partage d'informations entre les agents de sécurité va marcher. Mohamed Adamou.
The WAPIS brings all the West African countries together.
Le WAPIS réunit tous les pays ouest-africains pour collecter des informations sur les crimes et la criminalité. Une fois ces informations collectées, elles sont partagées en toutes les agences de sécurité de la région. Donc c'est un instrument important pour chaque pays dans cette région pour combattre le crime.
Les dirigeants de la région sont préoccupés par le fait que les réseaux criminels de stupéfiants et le trafic de migrants, entre autres, profitaient du manque de systèmes de partage d'informations par les agents de sécurité de la région pour mener leurs activités sans entrave. Le secrétaire général d'Interpol, Jorgen Stock, souhaite voir ces projets profiter à tous les pays membres de son organisation.
L'exécution du projet WAPIS est un pas important pour améliorer la situation sécuritaire au Nigeria, en Afrique de l'Ouest et dans les 194 pays membres d'Interpol.
Cependant, signer un accord est un pas important, certes, mais son exécution est un autre défi à relever. C'est pourquoi l'Union européenne, qui finance le projet, espère voir les résultats sur le terrain. Ketul Karsin est son représentant au Nigeria.
Nous attendons de voir l'exécution totale de ce projet WAPIS au Nigeria, qui nous permettra de voir les résultats sur le terrain et d'offrir ses services de base aux populations de la CEDEAO.
Mais quel pourrait être l'impact de ceci sur la lutte contre les crimes transfrontaliers en Afrique de l'Ouest? La réponse du ministre nigérien de l'Intérieur, Abdourahmane Bello Dambazaou.
La mise en place du système d'information électronique de la police partagé par les agents de sécurité au Nigeria à travers le programme WAPIS va aider à assurer l'efficacité dans le partage des informations ainsi que dans l'accès au système de communication sécurisé d'Interpol.
L'insécurité dans l'espace CEDEAO est une sérieuse menace pour la région. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Cameroun, un consortium d'ONG vient de mettre à la disposition des communautés rurales un document sur les procédures de gestion forestière dans leurs localités respectives pendant au moins 25 ans. Le document intitulé « Le plan de gestion simplifié » explique comment les communautés rurales doivent s'organiser sur le plan technique et financier pour avoir accès à la gestion de leur patrimoine. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Victoria Mba travaille depuis une quinzaine d'années auprès des communautés villageoises des localités de Lodolf, Kampo et Bipindi, situées dans la région du Sud Cameroun. Dans ces zones d'intervention, les communautés ont des difficultés à aménager et gérer leurs ressources forestières. Victoria Mba, responsable de l'ONG, appuie pour la protection de l'environnement et le développement.
Si vous dites à un sociologue, venez me faire une étude socio-économique, il va vous dire mes honoraires par jour, c'est tant. Et je ne serai pas seul. Et j'aurai besoin pour un village qui a 9 km de faire tel nombre de mois. C'est la communauté qui doit payer. Si on se retrouve avec 10 millions, par exemple, du coup, la communauté ne pourra pas payer.
Mais avec le plan SEM de gestion, élaboré sous la coordination du Centre pour l'environnement et le développement, le CED, les coûts financiers des études sont amoindris. Une plus-value qu'apprécie Victor Amougou, coordonnateur du Centre pour l'éducation, la formation et l'appui du développement CFAIT, une ONG basée à Yokadouma, dans la région de l'Est, la principale région forestière du Cameroun.
La forêt communautaire, au départ, bénéficie des appuis multiples forme des partenaires de la communauté. Une fois en exploitation, les partenaires s'en vont, mais les responsables de ces communautés et les membres de ces communautés font face à des difficultés techniques et financières pour pouvoir réviser ces plans de gestion, d'où la nécessité de sortir un guide qui va permettre aux communautés de réviser librement et facilement leurs plans de gestion.
C'est ainsi que certaines communautés villageoises du Cameroun ont abandonné des projets d'exploitation ou de gestion forestière dans la plupart des forêts communautaires. Et pourtant, ces communautés pouvaient en assurer la gestion pendant 25 ans selon la loi forestière camerounaise. Mais ce qui leur a fait défaut est l'absence d'un plan SEM de gestion. Les précisions de Victor Amourou.
Ce document est élaboré sur la base des études, notamment des inventaires de la flore, de la faune et puis des produits forestiers non ligneux et des enquêtes socio-économiques assorties d'un plan de développement avec un ensemble de cartes qui constituent des pièces nécessaire pour l'élaboration d'un plan simple de gestion. Un document qu'on révise tous les 5 ans.
Cette nouvelle aubaine pour les communautés rurales devrait aussi prendre en compte l'approche JAR. Elisabeth Gélas du Centre Régional d'Appui et de Développement des Initiatives Femmes, CRAFIT, basé à Yaoundé.
Quand un projet arrive, les hommes sont au devant de la scène. En matière de gestion des revenus, les femmes ont un certain nombre d'activités à mener dans ce sens. Qu'on mette les femmes aussi au niveau des comités de gestion, qu'on mette les jeunes pour que le plan simple de gestion puisse avoir son sens.
Les pays du bassin du Congo, dont fait partie le Cameroun, sont à la croisée des chemins dans la gestion de leurs terres et forêts. Un défi qui les interpelle à renforcer les capacités des communautés villageoises à gérer leur patrimoine. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Le Burkina Faso veut labelliser son pagne national, le Faso d'Anfani, un pagne tissé avec des fils de coton, l'une des richesses agricoles du pays. Face à la contrefaçon et au risque d'appropriation de ce pagne par d'autres pays, les autorités burkinabées ont décidé de protéger des centaines de motifs du pagne popularisé par le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Un grand pas dans la protection de ce pagne emblématique du Burkina Faso. Dans quelques jours, le Burkina va labelliser son Faso d'Anfani. C'est ce qu'a promis le gouvernement. Ces derniers jours, une information a circulé selon laquelle une firme asiatique se serait appropriée le Faso d'Anfani. Faux, selon le CNPI, le Centre National de la Propriété Industrielle.
Nous pouvons rassurer les populations que le Faso d'Anfani n'a pas fait l'objet d'appropriation.
Mamadi Tassambedo, directeur général du CNPI.
Le ministère a un processus de labellisation qui suit son cours et qui va se parachever non seulement par la protection du Faso d'Anfani, mais également la protection des motifs du Faso d'Anfani, tant au niveau de l'espace OAPI que dans d'autres pays où il y a le risque de copie, d'imitation ou reproduction de ces motifs de Faso d'Anfani en tissu industriel.
Sur le marché, on trouve du Faso d'Anfani contrefait. Moustapha Tiendré-Beogo est vendeur de Faso d'Anfani.
Le Faso d'Anfani se différencie de ceux-là venant extérieurement par le tissage déjà, parce que là, ceux-là importés, c'est du tissu. Et le Faso d'Anfani, c'est des fils, c'est carrément différent. Les motifs sont copiés du Faso d'Anfani parce que là, on peut remarquer qu'il y a le gang la pèlera.
Le ministère en charge de l'artisanat offre régulièrement du matériel aux nombreuses associations de tisseuses. Célestin Zungrana, directeur de la coordination et de la promotion à la direction générale de l'artisanat, au ministère en charge de l'artisanat.
Nous sommes en tout cas dans une dynamique de vraiment de doter les associations du Burkina Faso en entier pour les permettre quand même de saisir les opportunités, de transformer notre coton d'abord, c'est très important, mais aussi de pouvoir avoir des ressources financières pour s'occuper de leur propre famille et bon, de créer de l'emploi également. Le pagne tissé, c'est le coton burkinabé, c'est les artisans du Burkina Faso. Même les métiers à tisser sont faits par nos artisans, les soudeurs.
Germaine Compaoré est présidente d'une association de tisseuses de plus de 500 membres depuis une dizaine d'années. Selon elle, les tisseuses vivent de leur travail et la labellisation de ce pagne viendra soulager ces femmes.
On peut dire que ça va. Les femmes jouent un grand rôle dans les ménages.
Germaine Compaoré.
Beaucoup de nos membres, c'est avec le travail qu'elles font qu'elles arrivent à payer la scolarité de leurs enfants. A contribué énormément au niveau des ménages. On veut protéger les motifs. Nous pensons que cela est un grand pas qui va sauvegarder notre patrimoine, le Faso d'Amfani.
Le gouvernement dit continuer à entreprendre des actions pour encourager au port du Faso d'Amfani. En 2017, un arrêté du Premier ministre alors encourageait les fonctionnaires à porter le Faso d'Amfani. Le processus de labellisation de ce pagne sera parachevé d'ici fin mai avec le dévoilement du logotype du label Faso d'Amfani le 30 avril prochain, selon le gouvernement burkinabé. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Il a 20 ans et c'est sa première sortie. On parle ici d'Atisso Goa, un artiste togolais qui sculpte en bois des œuvres géantes. En exposition à Lomé sous la dénomination « Les totems d'Atisso », le jeune artiste n'a pas manqué d'attirer l'attention de notre correspondante Kay Lawson, qui est allée faire un tour dans la galerie où il expose.
Il ne porte pas son surnom de sculpteur des géants pour rien. La vingtaine d'œuvres qu'expose Atisso Goa l'exprime bien. Sur cette exposition, la plus géante des sculptures est haute de 2,5 mètres et est dénommée le guerrier. Et la plus petite est la femme africaine qui mesure 1 mètre sur 1,20 mètre. De la sagesse du vieux au couple souriant, en passant par la fidélité, la complicité, la famille et l'éducation, ce jeune artiste togolais de 20 ans sculpte la vie au quotidien comme il affirme lui-même. Atisso Goa.
À travers mes œuvres, je montre la vie quotidienne, ce que je vois dans le monde et qui n'est pas bon. Je veux le dire et aussi je vois que la jeunesse est en train de perdre son espoir. C'est pourquoi moi aussi, je véhicule les messages à travers mes œuvres. Je veux que les gens voient ce que je fais de loin. Quand je suis devant les petites bois, je ne ressens pas vraiment ce que je veux faire. Et devant les grands bois, le bois me dirige quoi.
Les totems d'Atisso sont en exposition du 12 avril au 12 mai 2019. À la galerie d'art contemporain Negrelli Salomé, séduisent plus d'un de par le gigantisme des œuvres et la finesse du travail. Joël Kwasi Ekeshi, cet amateur d'art, était en admiration devant les sculptures d'Atisso.
Il voit un peu nos ancêtres à travers ces œuvres-là. C'est un jeune homme qui a beaucoup de talent, il fait aussi un travail très impeccable. Ça m'a beaucoup parlé. Surtout, il fait des recyclages. Les trucs qui sont agités, lui, il prend ça pour fabriquer des choses qui sont vraiment extraordinaires.
Au-delà de Beaux-Arts, Atisso Goa se définit comme un défenseur de l'environnement.
On doit prendre soin de notre nature pour qu'on puisse éviter certaines maladies. Quand l'environnement n'est pas propre, peut amener beaucoup de maladies. Et pour moi, je dois ramasser les choses qui peuvent amener des maladies. Donc, c'est pourquoi j'utilise les boîtes de tomates pour pouvoir rendre notre cadre de vie propre.
De bons artistes, il en existe sous la tropique et notamment au Togo. La galerie Negrelli veut mettre sous les projecteurs ces jeunes artistes talentueux et à l'avenir prometteur pour qu'ils puissent s'exporter. Lina Gbedema Kogbe, responsable de la galerie Negrelli.
Au Togo, on a tellement d'artistes qui sont méconnus, mais qui sont tellement talentueux. Même Atisso, il n'est pas connu à l'international, mais ses œuvres, c'est des trucs, franchement, que vous ne verrez pas ailleurs. Alors pourquoi ne pas aider ces jeunes à se perfectionner et pousser ces jeunes Togolais à aller eux aussi en Occident et prouver que les artistes d'ici, on est mille fois mieux que ceux qui sont là-bas qui exposent.
Atisso Goa a commencé par sculpter quand il était encore sur les bancs d'école. Aujourd'hui, artiste accompli, avec 8 années d'expérience, Atisso a des rêves à la taille de ses œuvres. Il se voit en exposition dans de grandes galeries en Occident, mais pour y parvenir, il ne cache pas sa rage de continuer par se former et se perfectionner. Kailson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le monde. monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.